Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. 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 Différence.
Radio & Co. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Ici Christian, aujourd'hui accompagné par Jennings. Bonjour Jennings.
Salut Christian, bonjour tout le monde.
Par Thomas.
Bonjour Christian.
Et par Luc.
Bonjour.
Notre équipe de fidèles. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'association Dyspraxie, France 10. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir pas un, mais deux invités. Nous avons de notre part Alain Demange, bonjour.
Oui, bonjour.
Et d'autre part, Monsieur Jonathan Calves. Bonjour, John.
Bonjour.
Et merci à vous d'être avec nous. Tout d'abord, alors nous allons procéder un peu différemment que d'habitude. Vous, que vous êtes deux, vous allez pouvoir vous exprimer tous les deux, bien entendu. Je vais vous demander l'un puis l'autre de vous présenter en quelques mots.
D'accord, bon, donc je commence Alain Demange. Alors ça va être un petit peu long. Hein. Je suis délégué départemental Haute-Garonne de l'Association nationale Dyspraxie France 10, comme vous l'avez dit. Dyspraxie, en fait, je vais y revenir, c'est ce qu'ils appellent en fait le trouble développemental de la coordination, le TDC. Donc ça fait partie des TND, des troubles neurodéveloppementaux. Je développe les acronymes tout de suite au cas où j'oublierai de le faire par la suite. Je suis membre du CA national de DFD et je suis coordinateur au plan national des bénévoles de l'association DFD et des actions concernant les adultes avec troubles développementaux de la coordination. J'ai été 20 années dans le milieu de la formation professionnelle, de l'insertion professionnelle des adultes. Je suis administrateur de Cap Emploi 31, du FIPHFP, qui est donc un fonds pour les personnes handicapées de la fonction publique. Je siège en CDAPH de la MDPH 31, donc la maison départementale pour le handicap. Et dans les trois cas, je suis représentant associatif. Je ne suis pas rémunéré pour ça. Et la grande majorité de mon activité est orientée vers l'orientation, la formation professionnelle, l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes avec troubles développementaux de la coordination. J'accompagne par exemple des personnes avec ce type de troubles qui me contactent d'un peu partout en France parce que finalement, on est relativement peu nombreux à exercer cette activité. Et j'ai également réalisé localement des prestations d'appui spécifiques pour les troubles cognitifs que m'a confié l'association qui porte ces prestations, la SEI. Voilà.
Donc bonjour, Jonathan Calves, John. Je suis cadre du médico-social, donc avec une empreinte médico-sociale et une connaissance du handicap au travers de ma formation et de ma profession au quotidien. J'ai eu la chance de rencontrer Alain au travers des réseaux sociaux. Et je me suis donc engagé auprès de DFD. Alors pas seul, c'est important d'en parler à un moment. Sarah Méran, elle est importante dans cette histoire et de notre rencontre d'aujourd'hui. À discussion, en bâton rompu avec Alain, je souhaitais aider une association sur un territoire. Il s'avère que ça a été DFD, une rencontre et un peu de curiosité de ma part. Et surtout, Alain m'a parlé de Sarah et de ces fameux cafés dont on va parler probablement un peu plus tard. Sarah qui a mis en place ces cafés des aidés, des aidants, et qui avait besoin, d'un coup de main, d'un second souffle pour relancer l'activité, la dynamique. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'aventure.
Mais bravo à vous deux, en tout cas, pour votre engagement associatif. Et nous allons poursuivre cette rencontre avec Jennings.
Oui. Alors Alain, justement, vous parliez tout à l'heure des troubles cognitifs. Pouvez-vous nous expliquer de manière simple ce que veut dire ce terme ?
Alors, de manière simple, je ne suis pas certain d'y parvenir. D'ailleurs, j'utilise assez peu le terme, moi, pour ce qui me concerne. Je vais vous reprendre la définition de la Haute Autorité de Santé. Un trouble cognitif correspond à une altération d'une ou plusieurs fonctions cognitives, quel que soit le mécanisme en cause, son origine et sa réversibilité. Un trouble cognitif peut avoir une origine neurologique, psychiatrique, médicamenteuse. Bon, une fois que vous avez dit ça, vous êtes vachement avancé. Du coup, qu'est-ce que c'est des fonctions cognitives ? Ce sont les capacités de notre cerveau qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement. Elles permettent de percevoir, se concentrer, acquérir des connaissances, raisonner, s'adapter et interagir avec les autres. Alors pour ce qui nous concerne, nous, plus particulièrement, par exemple, parce qu'on va en reparler pour le trouble développemental de la coordination, ce sont l'attention, l'orientation, la mémoire, mémoire, les praxis, le langage, les compétences visio-spatiales, enfin ce genre de fonctions cognitives. Voilà. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là, on voit à peu près de quoi il s'agit, c'est lié au cerveau et à des questions neurologiques.
En préparant l'interview, je m'étais demandé si vous parlez plutôt de troubles cognitifs ou de troubles des apprentissages en fait.
Ni l'un ni l'autre. Moi, je parle plutôt des troubles du neurodéveloppement. De plus en plus, le ministère de la Santé et beaucoup d'organismes parlent de... Il y a une espèce de convergence, si vous voulez, des troubles du neurodéveloppement dans lequel il y a pas mal de troubles différents. Il y a le trouble du spectre de l'autisme, il y a le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble développemental de la coordination et ce que certains appellent les troubles 10, voilà, et encore même l'épilepsie, enfin voilà.
Alors, pouvez-vous nous parler plus précisément de la dyspraxie ?
Alors déjà, je vais revenir sur une question de terminologie. Moi, je n'utilise pas le terme dyspraxie. Alors, c'est curieux parce qu'effectivement, il est dans le nom d'association, ce qui nous pose un problème d'ailleurs maintenant. Mais en fait, le nom, il date d'il y a 15 ans, si vous voulez. Donc, la situation a évolué depuis 15 ans. En fait, c'est le terme grand public. Moi, j'utilise justement trouble développemental de la coordination au sein des troubles du neurodéveloppement. Alors, pourquoi je fais cette différence sémantique, et j'y tiens beaucoup. Parce que si vous voulez, finalement, le trouble développemental de la coordination et les troubles neurodéveloppementaux, ça indique qu'il s'agit d'une question d'ordre neurologique, déjà, ça donne une indication, et pas psychiatrique. Les deux spécialités qui s'occupent du cerveau, ce sont les neurologues et les psychiatres. C'est une profession qui était commune jusqu'à la fin des années 60 et puis qui a été séparée en deux spécialités, les neurologues et les psychiatres. Et nous, on est sur le versant neurologique, ça a son importance. Ce n'est pas nécessairement des psychiatres qui s'occupent de cette question. Ça indique également que c'est de naissance, parce qu'on parle de développemental, donc c'est naissance, et elle concerne, en l'occurrence pour le trouble développemental de la coordination, elle concerne la coordination. Et si vous voulez, moi, ce qui me gêne, et c'est pour ça que j'utilise dans le terme dyspraxie, c'est pour ça que j'utilise pas ce terme grand public, c'est que les retentissements sont très hétérogènes et parfois ils sont communs aux troubles qu'on appelle dys, le mot grand public, la dyslexie, la dysphasie, mais des fois il y a des différences, et même souvent il y a des différences très importantes. Alors si vous voulez, imaginez-vous un enseignant ou un employeur qui se retrouve face à une personne qui est dysphasique et une autre qui a un trouble développemental de la coordination, et on lui dit c'est des troubles 10. Sauf que les retentissements, ils ne sont pas, je ne dirais pas du tout, mais il y a une grande partie de différents. Donc pour eux, ce n'est pas du tout repérant, ce n'est pas lisible. Donc du coup, moi je n'emploie plus le terme trouble 10 et le terme dyspraxie, j'emploie TDC. De fait, d'ailleurs, le trouble développemental de la coordination est classé dans les troubles moteurs dans le DSM-5, hein, qui est le document sur lequel les médecins se basent. L'association milite pour cette appellation spécifique, donc le TDC, comme on parle par exemple de TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc on tient à ce terme. Donc c'est pour ça que je ne parlerai pas de dyspraxie. Bon, alors qu'est-ce que c'est finalement un TDC ? Bon, c'est bien joli tout ce que je dis là sur la terminologie, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai évoqué la question neurologique, développementale, c'est de naissance, et la coordination. Pour faire simple, c'est une difficulté à réaliser des gestes. Une difficulté de ce qu'on appelle de motricité fine, comme diront des psychomotriciens, ça concerne la motricité fine. Il y a une grande hétérogénéité de retentissement qui d'ailleurs amène à une classification du trouble développemental de coordination selon 6 types. Je vous ferai grâce des 6 types. Ce qui prouve que ce n'est pas encore très stabilisé de mon point de vue. La sévérité en plus des retentissements est très variable d'une personne à une autre. Il y en a qui ont une sévérité faibles, d'autres moyennes, d'autres fortes. Et bon, très concrètement, les personnes avec troubles développementaux de la coordination ont du mal à écrire, ce qui dans notre civilisation est gênant. Si on était bédouin dans le désert, ça serait moins gênant, mais là, en l'occurrence, c'est gênant. À faire leurs lacets, à couper leur viande, à conduire un véhicule, très gênant, effectivement, quand on est adulte, à mémoriser un enchaînement d'actions. Elles peuvent y parvenir, mais elles le font généralement lentement et difficilement. Elle souffre évidemment d'une grande fatigabilité, puisqu'elle n'autonomise pas complètement les gestes qu'elle réalise. Et elles doivent se concentrer dessus, mais notamment quand elles écrivent. C'est-à-dire, par exemple, quand elles écrivent, elles sont en double tâche, comme on dit. Elles ont besoin de se concentrer à la fois sur le processus d'écriture et puis sur le sens de ce qu'elles écrivent. Et vous comprenez bien que c'est un fonctionnement qui est rapidement très fatigant et qui est source d'épuisement. Voilà en gros ce que c'est un trouble développemental de la coordination, voilà, et des troubles praxiques.
Pouvez-vous nous présenter l'association Dyspraxie France 10.
Oui, alors donc, Dyspraxie France 10, c'est une association nationale, hein, elle n'est pas purement toulousaine, hein, moi je suis le délégué départemental Haute-Garonne, elle est nationale, une association de personnes avec troubles développementaux de la coordination et de leur famille. Elle est reconnue d'intérêt général, a été agréée par le ministère de l'Éducation nationale, on fait des formations, donc agréée par l'Éducation nationale. Depuis la fin de l'année 2021, DFD est membre du collectif Handicap, qui est un collectif national qui regroupe les principales associations ayant trait au handicap. DFD parrainé par deux personnalités un peu connues. Renan Luce, qui est un chanteur, qui a eu un succès il y a quelques années.
Ah oui, quand même.
Qui en a un peu moins maintenant. Mais, bon, j'apprécie bien Renan. Et même s'il a moins de succès actuellement, et l'écrivain Pierre Lemaître, qui est un ancien prix Goncourt 2011 ou 2012, je crois, par là. Voilà. Et dont on parle parfois dans les médias parce qu'il a des prises de position politiques assez tranchées. L'association est présente sur 75 départements. Et elle œuvre pour mieux faire connaître et reconnaître le trouble développemental de la coordination. Alors, à la fois nationalement, donc on intervient nationalement, notamment les membres du CA, on intervient auprès des ministères. Alors, les ministères les plus concernés, c'est l'éducation nationale, pour les enfants, bien évidemment, l'éducation. Le ministère de la Santé, bien évidemment, puisque c'est un trouble de santé. Et le ministère de l'Emploi. Ça change de nom, mais je ne sais plus le nom actuel, mais enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Pour l'emploi, l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, ayant un trouble développemental de la coordination. Et localement, ben on intervient auprès, et moi ça fait, je fais les deux, puisque je suis membre du CA national et représentant local, on intervient auprès des partenaires locaux, des professionnels de santé. Je voudrais au passage parler vite fait, très rapidement, je suis un peu bavard et je parle vite, mais je voulais quand même le citer, Occitadis, qui est une association de professionnels de santé qui fait un travail merveilleux sur l'Occitanie pour les enfants. Qui vient d'ailleurs d'être reconduite, j'en profite pour le dire au passage, par le ministère de la Santé, qui avait mené une expérimentation pendant 3 années et qui est reconduite par le ministère de la Santé pour continuer le travail qu'elle fait pour les enfants avec des troubles du langage et des apprentissages. Alors bon, vous irez regarder sur le site web d'Occitadis le périmètre, ça inclut ce que certains appellent les troubles 10 et puis les troubles, enfin globalement les troubles neurodéveloppementaux, les troubles neurodéveloppementaux sauf l'autisme, en gros on va dire comme ça pour faire vite. Voilà. Donc on a des relations avec Occitadis, j'étais encore en visio hier avec Occitadis, la MDPH, donc moi je siège en CDAPH, les enseignants de l'éducation nationale, les familles, enfin voilà, toutes les personnes concernées par ce type de troubles.
Alors moi, si vous permettez, pour mes collègues, je vais un peu modifier ma question parce que vous avez déjà tous les deux bien parlé de votre rôle au sein de l'association. Donc je vais vous poser la question suivante. Alors peut-être à John, c'est pour laisser un peu Alain reprendre son souffle, mais bien sûr, si vous souhaitez parler, vous pourrez aussi. Donc je voulais savoir, si j'ai bien compris, en regardant un peu votre site, ce sont des troubles comme la dyspraxie, ce sont des troubles que les jeunes ont dès leur naissance. Est-ce qu'avec la rééducation, ils tendent à disparaître ou est-ce qu'on les garde toute sa vie ?
Bon, alors John me repasse le micro. Donc pour le trouble développemental de la coordination, si vous voulez, ce sont des troubles qu'on garde toute sa vie. Bon, par contre, effectivement, qu'on ait ou qu'on n'ait pas un diagnostic d'ailleurs, peu importe je dirais, on peut travailler sur les difficultés praxiques qu'on a. On peut arriver jusqu'à un certain point à les modérer, je dirais, en travaillant avec des psychomotriciens ou des ergothérapeutes, on peut arriver à limiter le retentissement et l'impact d'un trouble développemental de la coordination. Mais ça restera de toute façon à vie. Hein. On n'aura jamais un fonctionnement tout à fait comme une personne ordinaire. Je ne dis jamais le mot « normal », parce que je ne sais pas ce que c'est que « normal », comme une personne ordinaire, ou comme un neurotypique, puis pour employer le terme des personnes avec autisme, que je trouve très bien, puisqu'on est dans le domaine des troubles neurodéveloppementaux. Sébastien, je pense qu'il est neurotypique, moi aussi, Jonathan aussi. J'emploie volontiers le terme « neuroatypique », qui, à mon avis, colle bien aussi aux personnes avec troubles développementaux de coordination, et non pas le mot « ordinaire ». Je voulais le placer, ça au
passage. Finalement, c'est comme les autres handicaps, on apprend à vivre avec, quelque part.
On apprend à vivre avec, oui, effectivement. Mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent à vivre avec. On en reparlera après, plutôt sur l'emploi et l'insertion professionnelle. Voilà.
Alors là, je vais vous poser la question, cette fois-ci, à vous deux, Alain Demange et Jonathan Calves. Peut-être on va commencer d'ailleurs par vous, Jonathan. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans cette association ?
Alors ce qui m'a motivé, c'est tout simplement que j'aime m'engager d'une manière ou d'une autre dans de multiples projets. Et comme je le disais en introduction, je crois aux rencontres. Donc la rencontre s'est faite via les réseaux sociaux concernant Alain, qui m'a accueilli gentiment sur un premier entretien me proposant, me demandant comment est-ce que je souhaitais aider. Et c'est ainsi que je suis rentré dans l'association. Alors je suis rentré dans l'association en étant bénévole aidant et non pas forcément bénévole adhérent. Donc j'essaie d'aider et de mettre ma patte à l'édifice. Mais surtout, et j'y tiens encore une fois, c'était d'aider Sarah, puisque Alain m'a orienté vers Sarah Mérand quand je suis arrivé, pour la soutenir dans un projet qu'elle avait déjà créé, qui lui appartient à 200%. Et je reprends les termes où Sarah parle souvent effectivement de neurotypique et neuroatypique, ou de neurodivergence aussi. C'est ce qui a fait un peu débat et qui a permis l'écriture du projet quand il a fallu écrire le projet des Cafés 10, dont on reviendra tout à l'heure sur la formule. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'était et comment ça a évolué? Dans tous les cas, le handicap me touche aussi personnellement pour toute autre chose que je suis atteint de spondylarthrite. C'était important pour moi de pouvoir m'engager aussi socialement parlant auprès d'une ou sociétalement parlant auprès d'une association, encore une fois pour aider.
Tout à l'heure, vous disiez que vous travaillez vous-même dans le milieu médico-social. Est-ce que vous êtes bénévole en complément ou est-ce que vous êtes à la retraite maintenant et vous profitez du temps libre pour vous investir?
Je vous remercie pour la retraite, je crois que j'ai encore quelques belles années devant moi, c'est gentil. Mais avec grand plaisir. Le cas échéant, je pensais que ma voix paraissait plus jeune quand même.
Désolé.
Non, effectivement, je suis professionnel du médico-social, avec une porte d'entrée plutôt du côté de l'animation socio-culturelle. C'est-à-dire que je ne suis pas éducateur spécialisé de formation, je fais partie des ovnis en général dans le médico-social. Et j'ai travaillé mon parcours professionnel en inversion de la pyramide des âges, c'est ce que je dis souvent. J'ai commencé auprès de la gérontologie, de la psychogériatrie, et pour descendre en direction de la protection de l'enfance. Mais dans tous les cas, avec le handicap qui m'a toujours motivé, même sur les dernières expériences, j'ai travaillé auprès d'enfants dits cas complexes, c'est-à-dire des enfants suivis selon la loi Adrien Taquet, qui vient mettre en avant que des enfants protégés par les services de l'État peuvent aussi être en situation de handicap et qu'il faut les accompagner d'une autre manière. Donc mon empreinte auprès du handicap, elle se fait de manière professionnelle et finalement aussi de manière bénévole, investie et engagée.
Mais merci et désolé de vous avoir vieilli. Et nous allons donner la parole à Alain pour la même question sur ses motivations.
Donc, moi, ma situation est un peu différente de celle de John. Moi, je ne suis pas du tout en situation de handicap. Je suis concerné à titre personnel parce que mon fils a un trouble développemental de la coordination. Il a maintenant 32 ans. Ça a été détecté, enfin, certainement plus tôt, mais on a dû faire un déni avec mon épouse. Et en fait, c'est vers 15 ans que ça a été vraiment... Ça s'est révélé vraiment de manière importante. Alors, j'aurais pu en rester là et ne pas m'impliquer dans une association. C'est ce que font d'ailleurs la très, très grande majorité des parents. Bon, en fait, j'ai une culture associative. Bon, je suis adhérent d'associations depuis 1976. Alors, donc, je ne reviendrai pas sur mon âge. Du coup, vous pouvez le calculer assez facilement. Je suis à la retraite, effectivement, soi-disant. Et j'ai rencontré même mon épouse dans le milieu associatif en 78. Voilà, donc, ça ne rajeunit personne. La plupart d'entre vous, autour de la table, n'étiez pas nés. J'ai d'abord, au début de mon engagement concernant le trouble développemental de la coordination, j'ai voulu rencontrer des parents qui vivaient finalement la même expérience que moi, la même situation, mieux comprendre le trouble développemental de la coordination et accompagner mon fils dans ses difficultés, parce que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais ingénieur à la base. Hein, donc, par contre, mon épouse travaillait, elle, dans le domaine médico-social. Elle y a travaillé 40 ans. Pas la SEI, mais la RCA. Et puis ensuite, une fois que la situation de mon fils est un peu stabilisée, il a 32 ans maintenant, je l'ai dit, j'ai voulu être utile, j'ai voulu accompagner et soutenir les autres parents qui vivaient la même situation, après moi finalement, et les personnes avec troubles développementaux de la coordination elles-mêmes, hein, pas uniquement les parents, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des parents et des enfants, mais il y a aussi des personnes qui, en grandissant, ils deviennent des adultes. Hein, donc voilà. Et j'ai voulu leur permettre de tirer profit Des connaissances et de l'expérience que j'avais acquises. Donc moi, je me suis progressivement concentré sur les adultes avec troubles développementaux de la coordination. Pourquoi ? Parce que, et sur leur insertion professionnelle et leur maintien dans l'emploi. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que leur situation était peu prise en compte. On parlait beaucoup des enfants avec troubles développementaux de la coordination. Il y a des actions qui sont en place, comme celle d'Occitadis, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que pour les adultes, c'est encore embryonnaire. Donc il y a du travail à faire. Et comme j'avais travaillé nationalement 20 années dans le domaine de la formation professionnelle des adultes et de l'insertion professionnelle, bon, c'est un monde dont j'ai expérience. Et je me suis concentré progressivement sur les adultes, alors en situation de handicap, parce que je ne réponds pas que pour le trouble développemental de la coordination, mais c'est vrai, en grande partie pour le trouble développemental de la coordination. Il m'arrive d'avoir des personnes sur des troubles psychiques également. Je connais bien le trouble obsessionnel compulsif, par exemple. Trouble obsessionnel compulsif, c'est un trouble psychique. Je connais bien, pas moi personnellement, mais je le connais. Donc il m'arrive également, je suis adhérent de l'Association française des troubles obsessionnels compulsifs et je réponds également et j'accompagne des personnes ayant ce type de trouble. Donc pas uniquement le trouble développemental de la coordination. Voilà.
Alors collaborez-vous avec d'autres associations ?
Alors oui, toutes les associations collaborent entre elles, plus ou moins, mais enfin dans l'ensemble, on collabore. Bon, pour vous donner des exemples, nationalement, on collabore au collectif handicap, comme je vous l'ai dit, c'est un collectif qui rassemble une grande partie des associations nationales liées au handicap. Je voudrais citer, j'en profite pour passer des messages, sur ce podcast. On collabore par exemple avec Atypi Friendly, qui s'appelait auparavant Aspie Friendly, qui est le dispositif monté par Bertrand Montubert, qui permet d'aider les étudiants dans leurs études, à les soutenir dans leur parcours d'étudiant. Donc au départ, c'était essentiellement centré sur les étudiants avec autisme, donc ça s'appelait Aspie Friendly. Et puis là, du fait que le gouvernement, le ministère de la Santé, incite à une convergence des troubles neurodéveloppementaux, Aspie Friendly s'est changé en Atypi Friendly et intègre progressivement les autres troubles neurodéveloppementaux, dont le trouble développemental de la coordination. Bertrand Montubert m'a dit il n'y a pas très longtemps, allez-y doucement quand même parce que c'est progressif, on n'est pas des spécialistes d'emblée, mais si vous voulez, la tendance, c'est celle que je suis en train de vous décrire. Et localement, on travaille avec toutes les autres associations qui le veulent bien. Alors, d'abord, il y a un collectif interassociatif des associations du handicap à Toulouse qui s'appelle le CIH, en fait le sigle c'est le CIH, donc toutes les associations y sont représentées, toutes les associations qui veulent bien. Nous, par exemple, on collabore avec d'autres associations de l'autisme, par exemple, Sésame Autisme ou Autisme 31. On collabore avec les associations qui s'occupent de troubles 10, la dyslexie comme Apédis Midi-Pyrénées ou la dysphasie comme Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées. Donc on collabore avec les autres associations. Avec ces deux autres associations dont je viens de parler, on organise des rencontres conjointes à destination des personnes ou des familles concernées par les troubles neurodéveloppementaux. On organise des sensibilisations dans les écoles, dans les entreprises. Enfin, voilà toutes les personnes qui veulent bien nous solliciter. Bon, c'est vrai qu'on ne fait pas de démarchage, mais rien qu'avec les personnes qui nous sollicitent. Hier encore, les personnes d'Occitanis nous ont dit « on est sollicité, est-ce qu'on peut vous passer les actions ?» On a dit « oui, allez-y, pas de problème, on verra si on peut répondre ». Dans les écoles, dans les entreprises. C'est plus les écoles que les entreprises, d'ailleurs. Mais c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a une collaboration qui s'effectue, effectivement.
Combien de bénévoles y a-t-il dans votre association et quelles sont leurs missions ?
Alors, nationalement, DFD, Dyspraxie France 10, donc, compte une centaine de bénévoles. On n'a aucun salarié. Alors, je le précise, il y a une intention derrière ça. C'est qu'en fait, périodiquement, on reçoit des demandes d'emploi. Des candidatures ou bien des personnes qui veulent faire des stages. Moi, je n'ai pas les moyens d'embaucher des personnes et je n'ai pas les moyens de suivre des personnes en stage, même en service civique, je le dis franchement. Donc, je réponds à chaque fois que, d'ailleurs, je l'ai marqué sur le petit site web que j'administre localement, moi-même. On ne peut pas prendre des personnes, on est trop peu nombreux. Nous, on est localement en Garonne, on est une douzaine de bénévoles. La plupart d'entre nous travaille encore. Moi, je suis à la retraite, mais bon, en fait, je passe mon temps à ce que je suis en train de faire là. Sur ce sujet. Donc, on n'a pas les moyens et la disponibilité pour accompagner des personnes, même dans un service civique, par exemple. Alors, les missions sont sensiblement les mêmes dans tous les départements. Je vous les ai décrites un peu précédemment. Chez nous, en Haute-Garonne, il y a cette prégnance de la question des adultes, bon, qui est plutôt portée par moi, si vous voulez. C'est vrai qu'on est un peu atypique en Haute-Garonne, de mon fait. Et j'aimerais bien d'ailleurs que quelqu'un se présente pour la suite des opérations, parce que moi, je ne ferai pas ça encore pendant 20 ans. Si je peux, j'y essaierai, mais ça va devenir difficile. Et on va revenir sur la question avec John. Tout bénévole qui se présente peut proposer une action. S'il souhaite la développer, on en parle au collectif. Et puis, si le collectif est d'accord, la personne la développe, et avec le soutien du collectif. Et c'est comme ça que se sont passés les cafés qui ont d'abord été initiés par Sarah, et elle avait besoin d'un second souffle. Et quand John m'a contacté, c'est vrai que je me suis un peu gratté la tête dans un premier temps. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Et puis, en discutant avec John, je me suis dit, tiens, peut-être que Sarah aurait besoin de soutien. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais si quelqu'un d'autre veut proposer une autre action, je sais qu'il y a une maman, il n'y a pas longtemps, qui m'a contacté, qui m'a parler d'un type de projet qu'on avait abandonné depuis quelques années, de faire un spectacle d'artistes, peut-être qu'on pourrait reparler avec John, et puis suivi de discussions avec des parents qui seraient venus voir le spectacle. On l'avait fait, on a un peu arrêté, mais on peut peut-être le reprendre. Voilà, donc c'est un peu l'opportunité des personnes, quoi, si vous voulez. John, il n'en est pas au courant, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est peut-être quelque chose donc, qu'on pourrait reprendre, qu'on avait fait il y a quelques années, qu'on avait arrêté, mais qu'on peut peut-être reprendre, voilà.
Et les adhérents, qui sont-ils? Ce sont principalement des parents, des personnes concernées par la dyspraxie, et sont-ils nombreux?
Alors, je vous ai dit, on est une douzaine en Haute-Garonne. C'est essentiellement à ce stade où c'était des parents.
Les adhérents, je veux dire, pas les bénévoles.
Les adhérents. Oui, oui. De toute façon, c'est un peu pareil. Hein.
D'accord.
C'est un peu pareil. Donc, les adhérents et les bénévoles, moi, je ne fais pas trop la distinction.
C'est une centaine de personnes en tout dans l'association.
Les bénévoles, d'accord. C'est une centaine nationalement, si d'accord. Vous voulez. Une douzaine localement. D'accord. Et après, les adhérents, ils ne sont pas très nombreux. On est une cinquantaine. Hein,
donc, ah oui, d'accord.
Il y a peu de personnes qui adhèrent, si vous voulez. Il y a beaucoup de personnes qui n'adhèrent pas dans les associations maintenant. Ils se servent beaucoup des réseaux sociaux. Certains disent qu'ils consomment. Et puis, il n'y a pas énormément d'adhérents dans les associations. Donc, si vous voulez, souvent, ce sont des parents. Et de plus en plus, c'est la deuxième génération. C'est-à-dire, ce sont les personnes avec trouble développemental de la cognition elles-mêmes qui prennent la suite.
Ah, c'est très bien, oui.
Mon homologue du GERS, Julien, que Laurence, en face de moi, connaît, c'est une personne lui-même avec un trouble développemental de la coordination et pas qu'un trouble développemental de la coordination. Il y a des comorbidités, j'en ai pas parlé parce que sinon on va exploser l'horaire. Pour revenir à Julien, il est lui-même en situation de trouble développemental de la coordination et de plus en plus, il fait partie du CA national maintenant. Je l'ai poussé à ce qu'il rentre au CA national. Parce que la première génération, on est des parents essentiellement, donc, et on veut progressivement passer la main à la deuxième génération, c'est-à-dire aux personnes en situation de trouble développemental de coordination elles-mêmes. Voilà. Donc Sarah, et dont parlait John, est en situation de elle-même, elle a une trentaine d'années, Sarah. Donc c'est ça l'intention, c'est que progressivement, nous, on se retire. Et moi, je serai dans les premiers, sûrement. Et ce sont les personnes concernées elles-mêmes qui prennent la suite. Ça ne veut pas dire qu'on laissera tomber complètement, mais il y a un passage de relais qu'il est nécessaire de préparer. Voilà.
C'est très bien parce que vous avez fait une transition parfaite, parce que vous avez commencé à évoquer le sujet de l'emploi. Nous allons un peu parler de la seconde génération, de votre fils, de Sarah, de tous les autres.
Ouais.
Selon vous, quels sont les principaux freins d'accès à l'emploi pour les jeunes 10?
Alors, bon, là, c'est un chapitre un peu long pour moi. Je regardais l'heure. Bon, alors, déjà, je ne parle pas de trouble 10, je le rappelle. Moi, je parle que tout trouble développemental de coordination. Je parais peut-être un peu borné en insistant lourdement là-dessus. Si vous voulez, moi, je n'aime pas parler de sujets que je ne connais pas. Donc, je connais le trouble développemental de la coordination. Donc, je vous parlerai du trouble développemental de coordination. C'est vrai que mon fils n'est pas du tout dyslexique. Il n'a jamais vu une orthophoniste, qui est le corps de métier. Je viens du bâtiment, c'est pour ça que je dis corps de métier. Il n'a jamais vu une dyslexique, une orthophoniste qui voit plutôt des dyslexiques. Donc, moi, je parle de troubles développementaux à la coordination. Alors, ce que je voudrais déjà commencer par dire, c'est peut-être un message d'espoir, c'est qu'il y a un nombre important d'adultes avec troubles développementaux de la coordination qui s'insèrent professionnellement. Alors, ils s'expriment peu. Tout simplement, on ne les connaît pas parce qu'ils n'ont pas tellement besoin de faire appel à notre association. Nous, c'est plutôt les personnes qui sont en difficulté qui nous contactent. Donc, eux, ils ne nous contactent pas. Mais il y en a un certain nombre. Alors, vous allez me dire... comment vous le savez? Effectivement, je le sais quand même parce qu'il y en a un certain nombre qui me contactent. J'ai des exemples en tête parce qu'elles ont elles ont des difficultés quand même qui les gênent. Elles ont une gêne, quelque chose depuis leur enfance et parvenues à l'âge adulte sans que ça les empêche de s'être insérées professionnellement. Je pense à un jeune homme de de l'éducation nationale, qui avait son CAPES, qui tentait la grecque. Mais il me disait, je vis un inconfort depuis que je suis jeune. Il y a des trucs qui me gênent. Je ne suis pas arrivé à revenir dessus. Je voudrais en savoir plus. En regardant sur Internet, je vois, enfin, dyspraxie, donc trouble développemental de la coordination. Je me dis que peut-être. Et donc, bon, voilà. Et donc, je l'ai accompagné, mais il y en a d'autres, un certain nombre. Je pense à lui, il s'appelle Jonathan, si. Mais c'est pour ça que j'y pense. Mais il y en a d'autres que j'accompagne. Bon, lui, en l'occurrence, est allé jusqu'à une RQTH, une reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Tous ne vont pas jusque-là. Ça dépend de leur intention, de leur motivation. Il y en a qui veulent juste travailler, peut-être avec une psychomotricienne ou une ergothérapeute, quand on est dans un contexte professionnel, pour passer par-dessus les difficultés qu'ils ressentent depuis leur enfance. Par exemple, ils ont du mal à obtenir leur permis de conduire, à conduire. Voilà. Donc, j'en connais un certain nombre, si vous voulez, qui finalement ont un trouble développemental de coordination, mais qui sont insérés professionnellement. Il y a aussi, je pense à Rachel, donc, qui était qui est toujours la mère de deux jeunes hommes, un homme et une femme. Ils sont majeurs, ils ont 20 et quelques années. Quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit oui, ils sont insérés professionnellement, ils n'ont même pas éprouvé le besoin de demander la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, ils se débrouillent, ça marche, ils avaient des aménagements quand ils étaient au collège et au lycée, mais là, en tant qu'adulte, ils n'ont pas éprouvé le besoin. Et moi-même, à cette occasion, à l'occasion quand ils étaient enfants, j'ai fait des tests moi-même et il apparaît que j'ai un trouble développemental de la coordination. Voilà. Et elle est insérée professionnellement, elle a la cinquantaine, elle travaille dans un organisme de formation professionnelle. Donc si vous voulez, il y en a plein qui sont insérés professionnellement, c'est ça que je voudrais dire. Bon, de toute façon, je voudrais ajouter que en fait, personne n'a les chiffres, personne ne connaît de pourcentage de personnes en situation de handicap. Alors moi je parle du TDC, mais je pense qu'on pourrait élargir à d'autres types de handicap, parce que personne ne peut les avoir, ces chiffres. Toutes les personnes avec un trouble développemental de coordination ne vont pas à un diagnostic. Elles vont pas forcément un diagnostic. Elles ne demandent pas forcément la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elles n'en font pas forcément état à leur employeur. Donc personne n'a les chiffres. On ne sait pas du tout. Moi, j'ai entendu un jour, je me tourne vers Sébastien, que 90% des personnes avec autisme n'étaient pas en situation de travail. Je ne sais pas d'où sort un chiffre comme ça. Moi, je ne sais pas qui peut les fournir, ces chiffres. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui travaillent. Voilà. Donc, bon, alors je vais continuer. C'est un petit peu long, hein, ce que j'ai à dire. Un autre point. Donc, l'orientation professionnelle et les métiers que les personnes avec troubles développementaux de la coordination exercent. Alors, je signale au passage, là aussi c'est un message que je voulais passer, à Montpellier, DFD organise le 27 avril prochain son colloque national qui sera justement centré sur les adultes avec troubles développementaux de la coordination. Et on a prévu de parler justement de la question de l'orientation scolaire et professionnelle des personnes avec troubles développementaux de la coordination. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est d'ailleurs moi qui animerai le sujet à Montpellier le 27 avril prochain. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a un groupe DFD Facebook et il y a une des membres du groupe Facebook qui, il y a quelque temps, a eu l'idée de dire aux membres, mais finalement, est-ce que vous pourriez nous dire, les personnes qui sont adultes et avec un TDC, quelle profession vous exercez ? J'avais pas eu cette idée, moi, je dois dire. Il y a eu une centaine de réponses et il y a eu des métiers extraordinairement variés et des métiers avec une dominante manuelle. Électricien, infirmière. Donc ce que je voudrais passer comme message, c'est que contrairement à ce que j'entends encore beaucoup dire, certes c'est un handicap avec une dominante manuelle, mais ça ne veut pas dire a priori qu'on doit dire à une personne, bah, écoute, tu as un trouble développemental de coordination, tu ne fais pas un métier manuel. Ça, ce n'est pas vrai, si vous voulez. Donc moi, c'est vraiment quelque chose contre lequel je voudrais aller. Il n'y en aura pas. Peut-être autant que dans le reste de la population, mais ce n'est pas impossible. Et si le rêve d'une personne, c'est vraiment d'être électricien, moi j'en connais un d'électricien qui a un TDC, eh ben, pourquoi lui dire non, tu ne pourras pas faire ça. Donc moi je ne me sens pas, quand des parents, c'est souvent les parents qui me contactent, je n'ai pas l'entrée de dire, ah mais avec un tel handicap, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier ? J'ai dit, ce n'est pas ça mon entrée. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que ces personnes ont besoin, au-delà de la motivation, de trois composantes dans l'emploi. Alors j'ai besoin de reprendre ces trois points. Elles ont besoin de temps. Si vous voulez une personne avec un trouble développemental de la coordination, c'est ce que je connais, je parlerai pas du reste, ils ont parfois besoin de faire un certain nombre d'expériences qui n'aboutiront pas. Comme ça, parfois, ça les oblige à faire le deuil de ces situations, mais au moins, ils auront essayé. Et puis finalement, ils arrivent à trouver quelque chose qui leur convient, un emploi qui leur convient. Il leur faut souvent un petit peu plus de temps que les personnes ordinaires, comme je disais tout à l'heure, mais elles finissent souvent par y arriver. Voilà, c'était le premier point que je voulais dire, besoin de temps. Besoin de compensation personnelle. Alors, si vous voulez, une personne en situation de handicap, il faut qu'elle sache qu'elle peut faire l'objet, si elle en a besoin, ce n'est pas le cas de tous, je vous ai cité des cas tout à l'heure où ce n'était pas le cas, mais elle peut faire appel à ce qu'on appelle des compensations raisonnables. Bon, pourquoi raisonnables ? Parce qu'effectivement, il n'est pas possible de demander et d'obtenir n'importe quoi en termes de compensation. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a publié en 2018 un document fondamental là-dessus, que ceux qui ont le courage iront lire. Il parle beaucoup des lois et de la jurisprudence et il est intéressant, très intéressant à lire. Donc il y a le droit à obtenir des compensations personnelles de sa situation de handicap. Et si vous voulez, donc je renvoie à la lecture de ce document, et c'est un point fondamental. Et pour revenir à votre question, c'est un des freins, si vous voulez, beaucoup d'adultes avec troubles développementaux de la coordination déjà ne savent pas ce point-là. Moi, j'en vois qui partent la fleur au fusil, qui ne savent pas qu'ils peuvent obtenir des compensations s'ils en ont besoin à leur situation de handicap. Il y en a d'autres qui ne veulent pas les demander par peur d'être stigmatisés, comme ils disent. Parce que déjà, c'est souvent des situations qu'ils ont connues dans leur enfance, être stigmatisés à l'école. Et du coup, ils ne veulent pas demander quand ils sont adultes. Ils veulent être comme tout le monde. Et puis, il y en a d'autres qui disent « Oui, mais de toute façon, les entreprises... » Elles ne les donneront pas, ça ne marchera pas. Donc, ils ne veulent pas les demander parce qu'ils ne croient pas, je dirais, à la sincérité des entreprises. Et pourtant, il y a des entreprises qui, effectivement, octroient des compensations. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un frein. Et puis, le troisième point que je voulais aborder, c'est le besoin d'accompagnement. Besoin d'accompagnement, il y a des structures et des dispositifs qui effectuent ces accompagnements. Vous avez, par exemple, Cap Emploi, vous avez des entreprises adaptées, vous avez des prestations d'appui spécifiques, troubles cognitifs en ce qui nous concerne. Vous avez le dispositif emploi accompagné que Sébastien connaît bien. Et il y en a encore d'autres. Donc, ils sont encore trop mal connus alors que l'État souhaite les développer. Je vais vous citer un chiffre. Par exemple, 8200 personnes étaient accueillies nationalement dans le dispositif emploi accompagné en juillet 2023. Il est prévu 30 000 en 2027. Donc ça, il faut le savoir. Donc il va y avoir des possibilités. Donc il est important d'être au courant de ce genre de questions. L'accompagnement, il peut aussi être réalisé par des professionnels médicaux. Moi, je pense notamment aux ergothérapeutes. Nous, on fonde beaucoup d'espoir sur les ergothérapeutes. D'ailleurs, ils parleront à notre colloque du 27 avril à Montpellier parce que je crois vraiment à leur travail. Il peut y avoir les associations, comme nous, les parents et les pères. Je vais parler, j'en ai entendu parler tout à l'heure au bar, des groupes d'entraide mutuelle, les GEM. Pour moi, les groupes d'entraide mutuelle sont insuffisamment développés pour les TND en général, en Occitanie. Moi, j'ai vu que la direction interministérielle à la stratégie nationale pour les TND indique que près de 200 GEM ont été créés en 2017 au plan national pour les personnes avec TND. Pour ma part, je ne les vois pas tellement en Occitanie. J'ai du mal à les trouver. Peut-être pour l'autisme, oui, il y en a peut-être. Mais moi, je n'en vois pas beaucoup. Et j'espère que la nouvelle stratégie nationale 2023-2027 pour les TND permettra le développement de ces GEM en Occitanie. Bon, c'est un message que je lance aussi. Et le dernier point, j'y arrive. J'ai constaté lors de mes accompagnements d'adultes avec troubles développementaux de la coordination qu'un certain nombre d'entre eux, un nombre significatif d'entre eux, avaient du mal sur le long terme à travailler à temps plein. Alors ça peut se comprendre du fait de la fatigabilité engendrée par le trouble développemental de la coordination. Certains me disent passer leur week-end à se reposer et à récupérer de leur semaine de travail. Du coup, l'une des compensations possibles, puisque je parlais de compensation, et c'est une compensation qu'on appelle organisationnelle, serait de travailler à temps partiel, puisque pour beaucoup d'entre eux, sur le long terme, c'est difficile. Alors, elle nécessiterait toutefois, et c'est un message à la Caisse nationale de solidarité autonomie, la CNSA, elle nécessiterait toutefois de faciliter l'octroi de l'allocation à l'adulte handicapé, AAH, parce que siégeant de CDAPH, je peux vous le dire, et pourtant la CDAPH 31 n'est pas la plus difficile, je dirais, on a du mal à obtenir l'AAH avec un trouble développemental de la coordination. Et donc, il faudrait pouvoir coupler cette AAH avec un travail à temps limité. Voilà ce qui est difficile actuellement.
Donc c'est compliqué pour les jeunes qui n'ont pas la possibilité de trouver du travail, s'ils n'ont pas de ressources en plus, ça ne va pas être simple.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. Ou bien, ou travailler à temps partiel, si vous voulez. Hein. Souvent, ils veulent travailler à 70, quand même plus qu'à mi-temps. Et du coup, l'AH devient difficile. Donc c'est un choix et actuellement, c'est une difficulté.
Alors là, nous allons changer un petit peu de sujet tout en restant dans la même thématique, bien sûr. On va parler surtout du relationnel qui est très important. Parce que depuis peu, nous organisons à Café & Co un Café 10. Pouvez-vous nous expliquer le but et le fonctionnement de ces rencontres ?
Alors, pour reprendre la genèse, donc Sarah Méran, encore une fois, a mis en avant ces cafés qui étaient des cafés entre pairs. Donc, le but était que les rencontres de ces cafés soient des cafés des aidés avant tout. Donc, des personnes en situation de handicap, neurodivergent ou neuroatypique, et concernées par la dyspraxie. Le but étant que les rencontres permettent de mettre en avant des sujets de difficultés quotidiennes. Alain citait le permis de conduire, vous avez cité l'employabilité. C'est effectivement des sujets discutés où l'émulsion des idées et du parcours de chacun permet à chacun intervenant de trouver des solutions pour demain. Puis quand on s'est rencontrés avec Sarah, on a souhaité pousser un peu plus loin, c'est-à-dire ouvrir à des personnes, donc encore une fois neurodivergentes. Donc, par exemple, sur les biais de communication, Sarah s'occupe de communiquer au nom de DFD. Sébastien communique effectivement au niveau de la ZEI. J'envoie l'information au CERA, donc le centre ressources autisme, pour qu'il puisse le diffuser s'il le souhaite. Et ça permet de multiplier les possibilités avec des rencontres de personnes dont les handicaps sont divers et en même temps ont tous des points de commun au vu des difficultés rencontrées du quotidien. Et ensuite, la manière dont ça se goupille ou ça s'organise au quotidien, sur les séances, ce sont des rencontres animées au tout début par un professionnel externe. C'est quelque chose de nouveau qu'on voulait absolument mettre en avant, c'est-à-dire que première séance, nous avons une sophrologue. Deuxième séance, nous avons une art-thérapeute. Et nous avons d'autres professionnels à venir sur les prochains cafés. Le prochain étant le 13 avril prochain. Et le but de faire venir un intervenant externe, c'est d'éveiller le corps avant d'éveiller l'esprit, de façon à ce qu'au niveau du débat, ça puisse débloquer au maximum la discussion. Et ensuite, sur le débat, c'est là où je mets un point d'honneur à aider. C'est que je m'occupe d'être, entre guillemets, le chef d'orchestre de ce débat, de façon à ce que chacun puisse prendre la parole, se sentir à l'aise et trouver encore une fois, dans une dynamique de père et danse, comme le nommait Alain aussi tout à l'heure, des réponses entre soi. Puisque à aucun moment le café aidant-aidé n'est là pour être verticalisant. C'est bien quelque chose d'horizontal où tout à chacun va pouvoir trouver des réponses dans l'expérience et le discours de chacun.
Alors, nous allons atterrir bientôt à la fin de cette interview. Donc, on va vous poser la question qu'on pose habituellement aux invités. Que pensez-vous de votre passage à Café & Co ?
L'un et l'autre, bien sûr.
Je vais commencer comme ça, Alain terminera. Alors déjà, c'est un super partenariat parce que ce qui était aussi important dans ce projet, c'est que ça fasse sens. C'est-à-dire, on aurait pu aller dans n'importe quel café de centre-ville et en même temps, la paire aidance, elle se travaille en mettant en avant des lieux qui sont déjà engagés dans la dynamique. Donc pour moi, Café & Co était une évidence. Il y avait d'autres possibilités, mais Sébastien a répondu très rapidement à cet appel, à cette demande et je le remercie encore aujourd'hui. Donc c'est un lieu symbolique, c'est un lieu d'émergence intellectuelle, c'est un lieu d'émergence sociale et sociétale. Je trouve que c'est responsable en termes de fonctionnement et c'était important que le sens et les valeurs de ce café des aidés et des aidants soient mis à l'honneur à travers un lieu comme celui-ci. Il est évident que ça donne une couleur, une teinte spécifique et qu'il est bien sûr hors de question que ça vienne à changer demain, d'où la volonté d'un café pérenne dans le temps. Voilà.
Alors je vais vous faire peut-être une réponse un peu atypique, bien qu'étant neurotypique. Alors pour répondre à votre question, moi je commence déjà par consulter les émotions que je ressens. J'ai mis 60 ans à faire ça. C'est important d'arriver à conscientiser et accueillir ces émotions. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Et si vous voulez, lorsque j'entends le mot Café & Co, je ressens de la joie et du plaisir. C'est ce que je ressens. Des fois, j'ai des sujets, quand ils sont évoqués, ça me noue l'estomac. Et là, je sens et j'accueille le fait que je ressens de l'émotion, de la joie et du plaisir.
Et j'ai l'impression que, mais je le vois encore et je l'entends, c'est ce qu'apporte Café & Co. J'ai l'impression que c'est parce qu'il s'agit d'un café, de concept de café. C'est, Jonathan a commencé à en parler. Parce que des lieux pour recevoir des personnes en situation de handicap, ils existent à Toulouse, hein, par exemple à Cap Emploi. Moi, je vous ai dit, je suis administrateur Cap Emploi. Il y a des lieux pour accueillir des personnes en situation de handicap. Mais c'est des lieux où on travaille. Et des lieux où finalement, qu'est-ce qu'on ne travaille pas ? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne travaille pas ? Il n'est pas rare. Ça arrive qu'on aille au café, pour certainement plein de raisons différentes, qui me semblent toutefois liées par la notion de joie, de rencontre, d'amusement et de plaisir. Et c'est ce que, dans ce que propose Café & Co, c'est ce que je ressens. Voilà. Alors, j'ai lu effectivement le site web, je vois comment il fonctionne, ça fait plusieurs fois que je viens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action sérieuse, au sens, vous relirez Le Petit Prince et la personne qui dit « je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux ». J'aime bien citer Le Petit Prince. Et c'est un livre merveilleux, je trouve. Enfin, moi, je trouve merveilleux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que du sérieux, il y a de l'amusement, de la joie, du plaisir, de la détente. Voilà. Et je pense que c'est ça qui me marque au sein de Café & Co. Voilà.
Mais merci à mes collègues, Alain et John, merci pour votre venue. Il y aurait beaucoup encore à dire, notamment sur le diagnostic et sur bien d'autres choses, car c'est un bien vaste sujet. Mais malheureusement, nous allons devoir nous quitter pour aujourd'hui. Et donc, je vous remercie en tout cas d'avoir participé avec nous, d'avoir répondu à nos questions.
Radio & Co.